Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Chers frères prêtres, frères et sœurs dans le Christ, divers miracles relatifs à l'Eucharistie se sont produits au cours de l'histoire de l'Église. C'est ainsi qu'un miracle eucharistique est survenu en 1263 dans la basilique Sainte-Christine de Bolsena, au nord de Rome et au sud d'Orvieto en Italie. Un prêtre bohème, Pierre de Prague, venait d'accomplir un long et difficile pèlerinage et il priait sur la tombe de Sainte Christine. Il passait par une crise spirituelle profonde et demandait à la Sainte d'intercéder pour que sa foi se fortifie et chasse les doutes qui le tourmentaient, en particulier à propos de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Le miracle advint au cours de la messe célébrée par le prêtre en présence de nombreux fidèles. Au moment de la consécration, alors que le prêtre avait prononcé les paroles liturgiques sur les espèces du pain et du vin, l'hostie qu'il tenait au-dessus du calice prit une couleur rosée et des gouttes de sang tombèrent sur le corporal et le dallage du sanctuaire. Le prêtre, bouleversé, interrompit la messe et porta à la sacristie les saintes espèces. Informé de l'événement, le pape Urbain IV, qui résidait à l'époque à Orvieto, vint constater lui-même le miracle, ce qui était survenu. Une partie des reliques sont conservées aujourd'hui à la cathédrale d'Orvieto. L'hostie, le corporal, et les purificatoires de lin. À Bolsena, on peut encore voir l'autel du miracle dans la basilique de Sainte-Christine, ainsi que quatre pierres tachées de sang. Ce miracle est à l'origine de la fête du Saint-Sacrement. Le pape Urbain IV institua en 1264 la fête de Corpus Domini par la bulle Transitus de hoc mundo, ce qui veut dire en passant de ce monde à son Père. Il s'agit de Jésus. Et alors le pape confia à saint Thomas d'Aquin, qui était là à Orvieto, la rédaction des textes liturgiques pour cette solennité qu'il fixa au deuxième jeudi après la Pentecôte. C'est la solennité que nous célébrons aujourd'hui, en ce jour. Le Tantum Ergo, chanté pendant le salut du Saint-Sacrement, est un extrait, les deux dernières strophes de l'hymne eucharistique Pange Lingua, composé par saint Thomas d'Aquin pour la célébration du Corpus Christi ou de la paix de Dieu. Et si cela vous intéresse, parce que vous écoutez bien, les deux autres hymnes écrits par saint Thomas d'Aquin sont « O salutaris hostia, panis angelicus ». Mes amis, quelques 750 ans après le merveilleux miracle eucharistique de Bolsena, la célébration de la fête Dieu, avec ses hymnes, ses oraisons et sa séquence, nous rappelle que Jésus, présent dans cet admirable sacrement, marche à nos côtés. Alors que nous poursuivons notre pèlerinage terrestre vers la céleste patrie, où nous jouirons de la vie éternelle. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Quel itinéraire avons-nous à parcourir pour atteindre cette vie en plénitude, cette vie éternelle que le Seigneur nous promet aujourd'hui? Les textes bibliques de notre liturgie répondent à notre question. La première lecture nous parle du peuple hébreu, éprouvé autrefois dans son existence par un dur et long esclavage en Égypte, éprouvé par une longue marche dans le désert du Sinaï, affligé par la pauvreté, la faim et la soif. Pour le rédacteur du Deutéronome, il s'agit de montrer la portée spirituelle des événements passés. Il s'agit de convaincre le peuple éprouvé par les événements que la parole de Dieu, la parole créatrice des commencements, est également présente dans le temps de l'épreuve. La parole de Dieu est toujours à l'œuvre dans l'histoire du peuple élu, créant sans cesse les conditions nécessaires à la subsistance et au salut. Et l'argument utilisé par l'auteur est celui de la mémoire, est celui du souvenir. Souviens-toi, rappelle-toi, n'oublie pas que Dieu t'a fait venir d'Égypte, qu'il t'a donné la manne, cette nourriture, ce pain merveilleux, donnant de penser à la parole divine, seule source de la vraie vie. Souviens-toi. Souviens-toi qu'il t'a fait traverser le désert et a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. Souviens-toi, n'oublie pas que c'est à travers l'épreuve que Dieu t'a donné la preuve de son existence, que Dieu t'a donné la preuve de sa présence au milieu de vous. Dieu est Yahvé. C'est-à-dire celui qui est avec, celui qui tient par la main, celui qui conduit. Souviens-toi de son action libératrice et de la véracité de ses promesses. Dieu fait ce qu'il dit. Et c'est à cette preuve existentielle que la première lecture tirée du Deutéronome se réfère. Certes, c'est une preuve irrécevable aux catégories de la seule raison humaine, car elle relève de la foi. Il faut voir Dieu à travers les événements, il faut réfléchir, il faut lire les signes des temps. C'est à ce raisonnement et à cette mémoire même que nous sommes invités nous-mêmes aujourd'hui. Souviens-toi, rappelle-toi, interrogeons-nous. Qu'attendons-nous pour vivre aujourd'hui, de nos jours, ici à Montréal? Qu'est-ce que nous attendons pour vivre? qu'est-ce qu'il nous faut pour vivre ? Le plus souvent, nous attendons d'avoir, de posséder en abondance et d'avoir toujours plus, d'avoir de la nourriture, des richesses et par-delà d'avoir les autres, de les négliger, de les utiliser ou encore, pire encore, de les dominer, de s'en servir. Si vous avez cela, si vous vous procurez telle chose, vous serez heureux, affirme la publicité commerciale qui s'étale autour de nous. Et alors nous succombons. Nous achetons, nous possédons, nous succombons à la tentation de tant de biens perçus de façon matérielle et nous périssons sous le poids de nos acquisitions, de nos biens. N'oublions pas ce qui fait vivre véritablement. Souvenez-vous. N'oublions pas, ce n'est pas l'accumulation des biens et des satisfactions égoïstes qui fait vivre, c'est l'amour, c'est le don de soi. Les nourrissons le savent déjà. En effet, ils refusent la nourriture quand ils ne se sentent pas accueillis par une personne aimante. Saurons-nous laisser crier en nous la faim la plus authentique, celle de la parole de Dieu, qui est source de la vie véritable, de toute vie. Toute la révélation biblique nous interroge sur nos désirs et nos appétits les plus spontanés pour les remettre en cause. Au sommet de cette révélation biblique, se trouvent les paroles paradoxales de Jésus qui nous interroge. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie et qu'il l'ait en abondance. Mes amis, accepterons-nous le pain que le Seigneur nous offre, sa propre vie, livrée pour nous? Sommes-nous capables de renoncer aux fausses sécurités de l'avoir pour nous ouvrir à la parole de Dieu qui nous sollicite pour que nous puissions venir jusqu'à Dieu? L'itinéraire de vie chrétienne que nous avons à parcourir, le Seigneur Jésus l'a parcouru lui-même avant nous, à la suite de son peuple, et comme son peuple. Celui qui par excellence fut éprouvé, n'est-ce pas Jésus de Nazareth? Souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. N'oublie pas, souviens-toi de Jésus-Christ éprouvé dans sa vie, sa passion, sa mort. Souviens-toi qu'il devint par sa résurrection la preuve vivante suprême que Dieu n'abandonne pas son peuple et son Messie. Mes amis, dans l'Eucharistie, jusqu'à la fin des temps, nous faisons mémoire de cet événement fondateur de la foi, le mystère de mort et de résurrection du Seigneur. Cet événement, sous le signe du pain et du vin, devient nourriture du monde. Le Verbe fait chair nous donne sa chair à manger. Il continue à nous dire, comme au désert, que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, et en priorité de cette parole faite chair. Ce pain descendu du ciel, nouvelle manne, n'est-il pas aussi le pain de l'épreuve, le pain de la fidélité, le pain de la traversée d'un autre désert, le pain d'une autre libération, le pain du voyage, le pain du passage, le viatique qui continue à nous signifier que non seulement Dieu est là, mais qu'il se fait nourriture pour le temps que nous vivons, qu'il continue à entrer en alliance avec nous, à marcher avec nous. C'est en Jésus que s'accomplit l'Écriture. C'est en Jésus que s'accomplit la première lecture de la messe d'aujourd'hui. Jésus est le type de l'homme éprouvé et qui, à travers l'épreuve, a gardé une totale fidélité à la parole et à la volonté de Dieu son Père, dont il a fait sa nourriture. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. C'est précisément ce pain de fidélité qu'il nous donne dans sa chair. À travers les frêles réalités du pain et du vin, l'Église attire notre attention sur cette chair livrée, donnée, sur ce sang versé pour la multitude. L'Église attire notre attention de façon réaliste sur la vie terrestre de Jésus de Nazareth, sur sa condition humaine, sur son itinéraire, sur sa façon, sur la façon dont il a vécu. Souffert et aimé. De même que je vis par le Père, de même celui qui me mange vivra par moi. Mes amis, lorsque nous allons communier, c'est à cet itinéraire que nous participons. C'est dans cette manière de vivre que nous nous engageons, en nous montrant sa chair et son sang. Le Seigneur ne dit-il pas le prix, la valeur et la dignité de nos frères et de nos sœurs? Ne nous demande-t-il pas d'assumer avec lui et en lui, dans une fraternelle solidarité, toutes les réalités charnelles de notre temps, de notre monde, tous ces corps tourmentés, violés, tous ces corps torturés, défigurés, affamés, tous ces corps qui n'arrivent pas à naître parce que nous les tuons. Ce sang versé par la haine, la violence et la guerre, c'est à cette prise en charge que nous engage l'Eucharistie, qui fait de nous un seul pain, un seul corps, comme nous le rappelle Paul dans les quelques lignes de notre deuxième lecture. Mes amis, j'achève. J'ai presque fini. Remarquez bien, en recevant le corps et le sang du Seigneur, nous sommes saisis dans le mouvement d'amour qui est le sien tout au long de sa vie. Communier en vérité, c'est accepter de remettre en cause nos fins les plus spontanées. Communier en vérité, c'est consentir à réorienter notre vie en fonction des biens essentiels, c'est-à-dire du seul bien essentiel, l'amour de Dieu. Si nous sommes dans de telles dispositions, lorsque nous nous approchons pour communier, nos appétits les plus instinctifs cesseront de dominer notre vie. Nous changerons alors nos vues trop humaines de la sécurité, de la réussite, du désir de posséder, et nous saurons alors participer vraiment à la vie nouvelle du Christ ressuscité. Amen. Amen.